Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 13 novembre 2021. Et je veux prendre deux secondes pour souhaiter bonne fête à mon fils, Émile, qui a 12 ans.
Bonne fête, Émile.
Bonne fête, Émile.
Alors, bonjour, Antoine.
Bonjour, Germain. D'abord, bon, c'est officiel, il y aura un salon de l'auto de Montréal en janvier contre toute attente. Bien hâte de voir ce que ça va donner.
Oui, effectivement, ça a été annoncé officiellement cette semaine. Bon, évidemment, avec un retard hein, par rapport aux autres années. On en avait parlé plus tôt cette année, des manufacturiers qui ont levé la main pour dire que carrément ils allaient être absents,
ouais.
Et absents de tous les salons canadiens. Là. Donc, on délaisse les salons de l'auto pour l'année 2022. Donc, comment le salon de l'auto de Montréal va-t-il se revirer de bord? Est-ce que ce sera des autos qui proviendront de concessionnaires ou est-ce qu'il y aura carrément des marques qui ne seront pas représentées? On verra tout ça du 21 au 30 janvier 2022.
Alors, un petit peu plus tard qu'à l'habitude.
Ouais.
On se décale d'une semaine par rapport au salon traditionnel. Mais de toute façon, il n'y a plus grand tradition aujourd'hui dans ce genre d'événement-là.
Effectivement.
Comment on va gérer ça? Est-ce qu'on va être masqué? Est-ce qu'il faudra présenter un passeport vaccinal? Bon, il y aura un paquet de questions qu'on pourra poser à Denis Dessureau, qui est responsable du salon, qu'on devrait recevoir d'ici les prochaines semaines.
Oui.
Parce que, évidemment, ben, on veut tout savoir sur cet événement-là et comme on risque d'être présent, toi et moi...
Oui, on risque de passer un bon bout de la semaine là-bas.
Alors... Ben voilà, fait que moi qui pensait aller faire un tour à Barrett-Jackson durant la dernière de janvier.
Ça sera pour une autre
année. Ça sera pour une autre année, malheureusement. Mais, ben écoute, au moins, c'est la bonne nouvelle. On revient peut-être un peu à la normale dans cette ère où...
mais dans un salon qui sera probablement pas normal.
Non, là, mais est-ce qu'on va, de toute façon, retrouver un salon comme on les a connus dans le passé?
Non.
On peut toujours se poser la question parce que, bon, il y a des constructeurs qui n'y croient carrément plus.
Ouais, on pourra spéculer à l'approche du salon et surtout dresser un bilan à la fin de ce salon-là. Pour moi, ce sera un très bon indicateur.
On a dévoilé cette semaine, Germain, une voiture qui a été une amère déception pour la très, très, très grande majorité des gens qui l'ont commenté sur les réseaux sociaux à la vue des images qu'on a dévoilées. On a finalement présenté celle qu'on renommera Integra, mais qui succède à l'Acura ILX sur le tard. Donc, l'Acura Integra 2023.
Oui, puis on en a parlé déjà quelques fois, toi et moi, à l'émission, puis dans d'autres tribunes, parce que... On avait une certaine excitation face au retour de l'Integra et on nous l'avait bien, entre guillemets, teasé. Les attentes étaient hautes. Et là, ben, ce qui s'est passé, c'est que Acura a tout simplement dévoilé une Honda Civic SI. Parce que c'est exactement ça.
En version 5 portes.
Oui, et puis à laquelle on a mis là, un devant Acura, mais sinon, c'est une Honda Civic SI.
Et moins jolie que la Civic, si tu veux mon avis.
Ben, écoute, c'est... Je la trouve pas particulièrement laide, mais c'est que on ne se démarque pas de la Civic SI. Et moi, c'est ça mon problème. On a le même 1.5 turbo. On est à 200 chevaux. Il n'y a rien d'emballant là-dedans.
Écoute, si ça se trouve, je pense que je préfère le 2.4 de l'ILX actuel que ce moteur 1.5-là qui n'a jamais été impressionnant. Je trouve que c'est une insulte à l'intelligence, l'idée de ramener le nom Integra, de jouer la carte de la nostalgie gros comme le bras en nous ramenant les bonnes années de l'Integra GSR puis de la Type R, puis nous faisant croire qu'on va découvrir un plaisir au volant exceptionnel dans une bagnole 4 portes. On nous a mis ça jaune avec des gros autocollants pour nous rappeler que c'est une Integra, parce qu'autrement...
On penserait là, que c'est une Civic, là. C'est carrément une Civic, là.
Un autre coup d'épée dans l'eau, puis un gâchis esthétique de la part des designers d'Acura. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. Je comprends l'idée de ramener le nom Integra.
Ça, bien sûr, c'est une très
bonne
évocateur,
idée.
Mais de c'est l'appliquer... très vendeur comme nom, mais de l'appliquer de manière aussi malhabile, c'est très dommage. C'est
puis
très,
on peut,
très dommage. Et je peux même pas dire, hey, on a hâte de la conduire. On la connaît déjà.
C'est
une Civic.
C'est ça.
Il n'y a aucune excitation face à ça. C'est une très grande déception.
Absolument.
Une très grande déception. Et on peut peut-être avoir une petite pensée pour les concessionnaires Acura qui vont devoir composer avec ce modèle-là, alors que la ILX, bon, c'était déjà pas un champion des ventes. Alors, on va continuer de trouver ça difficile, là.
Ajoute à ça aussi le fait que, bon, ce segment de voitures-là se vend de moins en moins. Tu sais, de la classe A, puis de l'Audi A3, puis de la BMW de série 2, puis nomme-les toutes, là. Mm-hmm. Dans ce segment-là, les ventes sont en baisse au profit des petits VUS et toutes les voitures en compétition contre l'Integra, techniquement, ont un rouage intégral, ce qu'Acura n'aura toujours pas, évidemment, parce que ça demeure une Civic.
Ouais.
On n'aura pas non plus d'hybridation.
Non.
On n'aura pas, tu sais...
Puis on ne se démarque pas non plus. Tu sais, tu dirais, si elle était très puissante et plus puissante que les autres, ce serait pas pire. Ben non, c'est
t'sais,
bien...
Si on jouait la carte avec une mécanique de la Civic, tu sais, à 300 chevaux...
Et moi, c'est ce que j'espérais secrètement, tu sais.
Mais là...
Mais ça ne s'est pas produit. Et là, est-ce qu'on ne nous arriverait pas avec une version épaisse de l'Integra? Ça se pourrait, mais encore là, il va être trop tard.
À la rigueur, ils vont greffer le 2 litres de l'accord là-dedans.
C'est pis, ça.
Bon. Mais puis encore, est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va se donner la peine? Parce qu'on ne s'est tellement pas donné la peine de faire quelque chose de différent avec ça. En plus, on nous la présente d'un jaune disgracieux avec des grosses bandes décoratives.
C'est subjectif, là.
Non, mais c'est subjectif, mais attends. On veut redorer le blason de la marque Acura. Oui. On veut amener une image un peu plus premium, un peu plus luxueuse et performante. Puis là, on nous présente ça comme si c'était... Écoute, là, je vois ça passer, puis ça me rappelle les mauvaises années de la Sunfire et avec cette couleur-là. C'est quoi,
ouais, elle a l'air d'un gros Pikachu, là.
Moi, je trouve ça carrément insultant. Encore une fois, des stratèges de la marque qui l'ont échappé, mais complètement. Et puis, si tu veux mon avis, c'est voué à l'échec déjà.
Oui.
Pas plus compliqué que ça.
Oui.
Parce que entre toi et moi, j'aime autant me promener en Civic que de me promener là-bas.
Tu vas être moins cher, qu'on va pouvoir équiper probablement, tu sais, décemment et de manière équivalente. Donc, oui.
Puis, tu sais, d'apposer le nom Integra sur cette voiture-là, c'est un aussi gros gâchis, si tu veux mon avis, que lorsqu'on a ramené le nom Dart sur une supposée Alfa Romeo.
C'est à peu près ça.
C'est épouvantable. Bon, au moins, la bonne nouvelle, c'est que d'un autre côté, on a aussi dévoilé officiellement le Kia EV9, qui, lui, va sûrement connaître beaucoup de succès.
Il est écrit, là, le succès en majuscule et en lettres fluorescentes sur ce véhicule-là. Et c'est intéressant parce que c'est un véhicule électrique qui s'inscrit dans la lignée de la EV6. Et là, ça va être ce qu'on nous promet, ça va être un VUS du format d'un Telluride. Donc, un peu plus gros que le nouveau segment de véhicules électriques qu'on a, comme le Mach-E, par exemple, Volkswagen ID4 et compagnie.
Oui, parce que la majorité
là,
des VUS
sont
qui débarquent
du même format.
Électriques. Ouais.
Sont toutes du même format. Ça s'adresse toutes à la même tranche de population, à la même clientèle. Mais là, si on nous arrive avec quelque chose de plus gros, avec une troisième rangée, qui sait, peut-être même des capacités de remorquage, ah ben là, soudainement, ça va être intéressant, là.
Absolument.
Donc,
il ne faut pas oublier non plus que Kia va proposer Sportage et Sorento en version hybride rechargeable, puis qu'on aura le EV9 comme VUS.
Ouais.
Puis à travers ça, ben, la EV6, qui est une voiture qui a un sacré beau look, puis qui, à mon avis, va peut-être venir même changer l'image de la marque, en ce sens que, pour moi, la Kia Stinger avait ce rôle de donner une image intéressante à la marque Kia. La Kia Stinger va disparaître, c'est écrit dans le ciel, et peut-être que l'EV6 serait celle qui va amener cette nouvelle image à la marque.
Ben, une image de véhicule vert, là, parce que...
Mais aussi dynamique, tu sais, parce que c'est un style qui est réussi, là, le V6, là, on peut pas dire le contraire.
Moi, je la trouve pas si belle que ça, là.
OK, mettons que je la stationne à côté de la nouvelle Integra.
Ben, en fait, je peux pas dire que je la trouve laide, l'Integra. Elle est aussi laide qu'une Civic, mais avec un devant de Acura. Je trouve pas ça hideux. Mais là, la EV6, Je trouve pas ça particulièrement
élégant. Ah, ben tu vois, moi, j'aime bien.
J'ai bien de la misère.
Bon, rouleau suivant cette semaine, ben dans quelques minutes, là, vous pourrez écouter cette huitième émission sur une Mazda 3 qui se refait une beauté, mais qu'on remet à une jeune dame qui a découvert récemment que son fils était malentendant. Il doit faire des allers-retours sans bon sens entre
l'hôpital et...
Ah oui, c'est ça. Elle demeure... où il y a eu l'accident de train, Germain? J'ai un blanc de mémoire.
C'est un peu gênant, ce moment-là.
Alors, on cherche le nom de la ville.
Écrivez-nous.
Bref, dans cette ville-là, elle part de là et elle s'en va. On va le trouver.
Lac Mégantic.
Merci, Lac Mégantic.
Merci à nos recherchistes qui nous ont écrit là, rapidement. Ils sont 12 l'autre bord de la fenêtre.
Chance de ton laptop en avant de toi. Donc, elle part de Lac Mégantic, elle s'en va à Québec, elle s'en va à Sherbrooke, elle est dans divers hôpitaux pour, évidemment, essayer de rattraper ce que Fiston n'a pas pu avoir comme apprentissage de langage, améliorer son ouïe, tout ça. C'est assez touchant comme situation. Fait qu'il y a un beau mélange d'émotions dans cette émission-là. Puis en même temps, bien, on découvre les quelques faiblesses connues des Mazda 3 et puis une voiture qui a été sérieusement négligée, mais qui, ironiquement, n'était aucunement rouillée.
Et dans le teaser, on le voit, là, cette voiture-là était extrêmement sale.
Ouais.
Ça semble généraliser, là, les véhicules que vous avez remis en état, toi et ton équipe, sont généralement extrêmement sales.
Et c'est pas voulu, hein?
Non.
C'est comme ça. Les gens ramènent leur voiture...
C'est gênant.
...remplie de déchets.
C'est gênant.
C'est fou raide. Ce qui était assez drôle, c'est que cette voiture-là nous avait été rapportée. En fait, lorsqu'on a repris la voiture, elle était pleine d'essence. La vidange d'huile venait d'être faite.
Ah, OK.
Mais tout le reste avait été sérieusement négligé et c'était un foutu bordel à l'intérieur de l'auto, extrêmement sale aussi. Alors, c'est ça.
Alors, François Bonneville a eu bien du travail à faire.
Ça n'aura pas été la pire, mais oui, il y en avait pas mal. La voiture, la peinture était contaminée au point où elle avait changé de couleur. Là. C'était pas des farces. Oui. Alors, on vous invite à voir ça.
On va écouter ça avec attention.
Voilà, sur TVA Sport, sur nos réseaux sociaux, un petit peu partout.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
La semaine dernière, Antoine, on a eu la chance de conduire tous les deux le même VUS, mais deux fois. Le premier, c'était la Toyota Corolla Cross 2022. Mais comme on en a déjà parlé un peu partout, on va vous parler cette fois du Bentley Bentayga dans sa version Speed 2022 et un véhicule de 368 000 $, tout frais inclus, toute taxe inclus. C'est extrêmement cher.
Pas toute taxe inclus, plus taxe.
Plus taxe.
368 000 $, plus taxe.
OK, donc les frais de transport, préparation, les options, tout ça c'est inclus. Mais
écoute, moi, j'ai calculé. D'abord, il y avait 18 000 $ de frais de transport, de préparation, d'administration, de taxes de gros consommateurs d'essence, de tout ce que tu voudras. Tous ces frais-là, c'est le prix d'une Corolla de base.
C'est fascinant. Hein,
quand même. Hein? Et ce qui est assez drôle là-dedans, c'est qu'on peut s'imaginer que la Corolla de base durerait plus longtemps que le Bentayga.
Ah, mais peut-être! Ça, c'est
l'autre.
C'est difficile à dire parce qu'ils n'en ont pas vendu 50 millions de Bentayga dans les 50 ou 60 dernières années. Mais bref, un véhicule qui... dans la même journée, j'ai conduit la Flying Spur en matinée avec le moteur V8, 4 litres, biturbo. Et j'ai vraiment eu l'impression de vivre une expérience à bord de cette voiture-là. La différence entre une Audi A8 ou une BMW série 7 est vraiment sentie. J'ai vraiment l'impression qu'on est à un tout autre niveau. La richesse des matériaux est là.
Mais l'expérience de conduite aussi.
Oui, mais j'ai pas trouvé que c'était extrêmement puissant, parce que c'est une voiture qui est pesante là, comme un Chevrolet Tahoe,
ouais.
Même si c'est juste une berline. Mais bref, c'est ça, ce côté-là qui te fait vivre une expérience, le côté prestigieux de la voiture, pour ça, c'est totalement réussi. Et là, après ça, dans l'après-midi, j'ai conduit le Bentayga, qu'on a conduit tous les deux, et franchement, la Flying Spur avec le W12 qui animait le Bentayga, pour moi, c'est le mariage parfait.
Bien, c'est sûr que le Bentayga, disons, l'écart entre un Bentayga et un Cayenne est peut-être moins grand qu'entre une Flying Spur et une Audi A8.
Parce qu'un Cayenne, là, à quoi, 175 000, là, on a quelque chose de bien, là, entre les mains.
Quand même.
Mais il reste quand même ben 200 000 de différence entre, les deux, là. Et pour moi, la différence est plus difficile à expliquer dans ce cas-là. Je sais pas si t'es monté sur la banquette arrière. C'est un peu ordinaire, là.
J'irai pas jusque-là.
C'est ordinaire.
Chaque petit détail à bord du véhicule a été travaillé.
Oui.
Au niveau finition, c'est carrément exceptionnel. Oui. Mais c'est certain que quand t'es au volant du Bentayga, tu vois l'emblème sur le volant, mais tu sais que tu as un volant Audi entre les mains. Tu sais que tu as une instrumentation Audi entre les mains. Tu reconnais certains de ces éléments-là. C'est pas un défaut parce qu'en soi, Audi a des technologies qui sont très à jour, alors que tu vois à l'opposé, dans un Aston Martin DBX, on est carrément en retard parce qu'on peut pas profiter des technologies qui viennent d'ailleurs. Ça. Fait que tu sais, c'est peut-être un avantage pour Bentley de pouvoir profiter de tout ce coffre à outils-là que le groupe Volkswagen va offrir. Mais je suis d'accord avec toi. Tu n'es pas dans un Bentley quand tu es dans un Bentayga comme tu es dans une Bentley quand tu es dans une Flying Spur ou une Continental GT.
On n'est pas au même niveau d'expérience. Ça demeure exceptionnel.
Et ça demeure le produit, soit dit en passant, le moins cher chez Bentley. Parce qu'un Bentayga, ça commence à juste au-dessus de 200 000 $. Bon, là, cette version-là, c'est avec le W12 biturbo, 626 chevaux.
C'est la mécanique à avoir, à mon avis. Là. Tant qu'à aller là, aussi bien prendre la totale.
Bien, c'est sûr qu'une version speed, c'est plus convoité. C'est assez étonnant comment, sur route, ça consomme pas tant que ça. Moi, j'ai pas l'impression que le V8 doit consommer beaucoup moins. Ça dort, là. C'est un W12, fait que pas besoin de te dire.
Et c'est insonorisé comme c'est pas possible aussi.
Très, très bien construit. Il y a pas de craquement. C'est solide comme camion.
J'avais entendu des commentaires beaucoup moins élogieux à l'égard de la première génération du modèle. Et là, ben franchement, moi, malgré ces petits détails-là qui m'ont peut-être un peu irrité, ça demeure épatant. Là, comme véhicule.
Bien, ça demeure. La finition à l'intérieur, c'est magnifique. Là. C'est du grand art visuel. Bon, évidemment, l'éclairage d'ambiance le soir, les odeurs à l'intérieur, tu sais, les cinq sens sont très ravivés quand tu es à bord d'un produit Bentley. Jusque dans le coffre, tu regardes l'épaisseur des moquettes, tu regardes les coutures, tu regardes la finition sur le chrome. C'est pas du chrome en plastique. Là. C'est magnifique. Là. On a ce souci du détail-là, la qualité d'assemblage extérieur. Puis je trouve que les retours qu'on a apporté en 2021 aux parties avant, arrière. Bon, là, c'est la version speed, fait qu'encore plus dynamique. Mais je trouve que les retouches qu'on a apportées lui font le plus grand bien. Parce que personnellement, la première génération du Bentayga, au niveau look, j'étais pas un fan.
Ouais.
C'est pas encore un camion qui m'émerveille esthétiquement autant que les voitures Bentley.
Ben voilà.
Le coupé Continental GT est tout simplement magnifique. Ça demeure pour moi un fantasme automobile, cette voiture-là, ce qui n'est pas le cas d'un Bentayga.
Et qui a très bien vieilli, hein, parce que les premières Continental GT sont encore très belle.
Oui, absolument. Alors, c'est sûr que le Bentayga, écoute, on ne peut pas dire ça comme ça, là. C'est le produit de masse. C'est ce qui permet à Bentley de
continuer. C'est la moitié des ventes. Là.
C'est la moitié des ventes, c'est sûr. Mais, et d'ailleurs, on n'en a pas chez le concessionnaire. Mmh. Moi, j'ai posé la question. On a pénurie de stock aussi dans ce segment de véhicules-là, mais le véhicule le plus difficile à avoir, c'est le Bentayga parce qu'il y a une demande partout dans le monde, alors que des Continental ou des Flying Spur, ben la demande est moins forte. Puis c'est des voitures plus nichées aujourd'hui. Alors, est-ce que le Bentayga, c'est le premier produit que j'achèterais chez Bentley? C'est sûr que non.
Mais en même temps, pour rouler, entre guillemets, à l'année, ça peut être...
Magnifique.
Ben voilà.
C'est magnifique. Et permets-moi de te dire que j'achèterais probablement ça avant un Rolls-Royce qui coûte beaucoup plus cher et qui a un look qui ne me plaît pas personnellement. et je sais ce que j'achète quand j'achète un Bentayga. Je connais les bases de ce véhicule-là. Et dynamiquement, c'est quand même impressionnant. Tu peux jouer avec les suspensions aussi. Ouais. Tu peux avoir un véhicule assez sportif dans sa conduite comme très ouaté, très confortable. Tu sais, C'est un beau véhicule, mais c'est sûr que, bon, ça s'adresse à l'élite, ça s'adresse, c'est un véhicule hors de prix.
Et on faisait le parallèle, tu sais, peut-être avec un Cayenne qui coûte moins de la moitié, finalement. Ce qui est intéressant quand on va dans des constructeurs de très grand luxe comme ça, c'est qu'on peut personnaliser le véhicule comme on le veut.
Oh, oui, absolument.
Ce qui est pas mal plus difficile si tu vas chez Porsche, même si tu peux choisir les couleurs et tout.
Ah, tu pourrais t'acheter un Bentley Bentayga Speed puis le mettre aux couleurs du Canadien de Montréal.
Ben voilà, tout est possible. On est assis avec toi et on note chacune de tes demandes. Et ça, franchement, ça demeure très, très intéressant.
Mais plus tu as de demandes, plus ça va être là avant que tu l'aies.
Oui, bien sûr,
mais bon,
bien sûr.
Ça fait partie de la game. On ne s'achète pas un Bentayga comme on s'achète un Nissan Rogue.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
On se demande, Germain, depuis quelques années, ce qu'il advient de la marque Lotus. Parce qu'on se souvient qu'il y a quelques années, on nous avait fait miroiter la relance de cette marque-là avec un paquet de véhicules concept, puis finalement, c'est tombé dans les limbes.
Et comme c'est une marque avec une marque de niche, hein, on peut la qualifier ainsi. Donc, on n'a jamais vu des tonnes de Lotus sur les routes. Donc, de voir que cette marque-là est en restructuration, mais pour le consommateur moyen qui circule sur les routes du Québec, on le voit pas nécessairement. Mais quand on suit l'industrie automobile de près, on se pose des questions.
Puis c'est une des rares marques automobiles qui s'adresse encore à des vrais puristes.
Oui.
T'sais, on n'a pas joué la carte. Il n'y aura pas de VUS Lotus.
Ben, peut-être,
on ne sait jamais, là, mais bref, en attendant, là, c'est vraiment de la voiture de puriste. Et là, ben, pour en parler de Lotus, on a décidé de s'adresser au spécialiste Lotus au Québec, Bernard Durand, qui travaille pour le groupe John Scotti. Salut, Bernard.
Bonjour.
Hey, bonjour.
Tu affectionnes particulièrement les Lotus depuis plusieurs années. Tu connais la clientèle, les variations, ce qui s'est vendu, les modèles, éditions spéciales, les variantes, mais et aussi, en fait, toute la structure derrière l'entreprise, parce que évidemment, vous êtes ceux qui s'approvisionnez directement à la source, se procurer des Lotus en tant que concessionnaire pour les revendre, c'est déjà un défi là.
Ben, c'est pas vraiment un défi. C'est sûr que dans les dernières années, si j'aurais commandé 50, ils me les auraient fabriqués. Est-ce que j'aurais eu 50 acheteurs? Ça, c'est une autre histoire.
Ouais.
Comme vous avez mentionné, il y a eu des... à un moment donné, quand un an après que l'Evora a été mise sur le marché,
ouais.
Il y a un monsieur qui est arrivé chez Lotus comme... président CEO, pour pas le nommer, Danny Bahar, qui venait de chez Ferrari Red Bull Racing, qui est arrivé avec 17 personnes de chez Ferrari, avec un plan de match là, de 5 nouvelles voitures en 5 ans,
ouais.
qui ont été présentées à grand déploiement. Et puis
c'était des beaux concepts, là. Ça semblait être des produits quand même assez aboutis, là.
Ça prenait juste de l'argent pour mener à terme le projet, là. Puis c'est ça qui est arrivé, c'est qu'entre-temps, Proton, qui était les propriétaires de Lotus, une compagnie de fabricants d'automobiles pour l'Asie,
ouais.
en Malaisie, ben, elle a été rachetée par une plus grosse corporation. Puis quand c'est arrivé au meeting des propriétaires, des shareholders, comme on dit en bon français.
Ouais.
Ben ça n'aurait jamais passé là, de dépenser 1 milliard pour la marque. Là. Fait que ça a juste fait effacer ça a enlevé le spotlight sur la Evora qui aurait dû être le cheval de bataille là,
ouais.
À ce moment-là. Et puis tout ça, ça a fait que bon. On a manqué un petit peu le bateau à cause de ça. Là.
Puis elle aurait été seule au sein de la gamme Lotus pendant combien d'années, l'Evora?
Bien, l'Evora, mondialement, elle était avec la Elise Exige, qui n'ont jamais arrêté de fabriquer pour les autres marchés autres que l'Amérique du Nord,
ouais.
Qui était trop... trop dur au niveau des réglementations de ballons gonflables intelligents,
ouais.
etc., qui n'étaient pas adaptables à la Elise Exige. Par contre, en Europe, ils ne se sont jamais souciés là, des ballons gonflables intelligents. En autant qu'il y en avait deux, le reste, c'est aux gens de les acheter ou pas les acheter. Là.
Ouais.
tu peux te promener en moto, il n'y en a pas de ballon gonflable.
Ben non. C'est ça.
En tout cas, ça, c'est un autre
où on trace la ligne entre un Can-Am Spyder, puis une Lotus, puis un Polaris Slingshot, puis ces trucs-là. Bon, il y a matière à discussion, ouais. C'est clair.
Sachant que ça a été difficile au tournant des années là, 2010, justement, avec ce haut gestionnaire qui a fait parler de la marque et qui a créé cette espèce de petite bulle, qui a créé un grand engouement et ça s'est vite estompé. Quelle est la position en ce moment de Lotus avec l'entreprise Geely qui la possède?
Ben c'est certain que si on recule là, 2 ans environ, quand ils ont présenté la EVA, qui est une voiture de 2000 chevaux vapeur, 100% électrique, pour montrer au monde qu'est-ce qu'ils étaient en mesure de fabriquer, là, en fait, ils sont partis avec un gros show de boucan, comme on dit, là, pour attirer l'attention puis montrer où ils voulaient s'en aller. Parce que Lotus ont présenté au mois de juillet la Lotus Emira, qui va être disponible à partir de cet été. On va recevoir les premières là, en principe au mois de juillet.
Okay.
C'est un véhicule qui est le dernier véhicule Lotus avec un moteur à combustion. Tous les autres qui s'en viennent dans le futur vont être des véhicules 100% électriques.
Puis c'est intéressant que vous mentionniez ça parce que moi, quand j'ai vu la EVA qui a été dévoilée, bon, grosse voiture électrique, inaccessible, 1000 chevaux, j'ai fait, est-ce que c'est encore un show de boucan comme on nous avait servi il y a plusieurs années? Mais là, rapidement, ben on s'est viré puis on est arrivé avec un plan de match. On a mentionné qu'il y avait un plan de match. On arrive avec la Emira puis là, ça semble plus sérieux. Là. Les gens peuvent s'asseoir sur du concret. Là. Et là, vous l'avez vu, cette voiture-là, justement, à New York, tout récemment. On veut tout savoir sur cette auto-là, maintenant.
Bien, écoutez, c'est un véhicule qui est dans la lignée des Lotus. Là, ça va être encore une Lotus. Là. Le châssis est très similaire au châssis de l'Evora et Elise, aluminium extrudé, tout ça, rigidité effrayante, donc comportement routier unique à Lotus par le fait même. J'ai pas essayé la voiture encore, mais si on regarde ceux qui l'ont essayé, ils sont tout emballés, là. Ça va être nous, on est rendu je pense que j'ai ramassé hier mon 60e dépôt.
Oh, quand même!
Pour cette voiture-là. Fait que il y a définitivement un engouement pour au niveau visuel, la voiture, elle est superbe. C'est une voiture avec moteur central, c'est une voiture qui est exotique, qui a un gros nom. Hein. Le nom, il y a beaucoup d'histoire là,
ben
en
oui.
Arrière du nom Lotus. Fait que c'est sûr que. Et en étant la dernière Lotus avec moteur à combustion, ben c'est sûr que la majorité veulent avoir le V6 manuel aussi parce qu'il y a la nostalgie des boîtes manuelles là qui n'existent plus dans le marché ou presque. Là.
Ouais.
Fait que c'est sûr que ça va être un grand succès et on nous a dit qu'il y aurait pratiquement un nouveau modèle à tous les ans là, dans les prochaines années là, suite à l'Emira, là, donc à partir de 2023-24, les voitures électriques vont les véhicules électriques vont commencer à arriver là, et puis on a beaucoup de pression ici pour se mettre à l'image de la nouvelle image. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Lotus ont changé, ont modifié un petit peu le logo là, pour départager les deux. Les deux airs, là, en fait. Fait que c'est...
Donc, OK, fait
qu'il
y a...
là qu'on s'en va dans une place solide, là. ça va bien aller, comme on dit.
Mais c'est la première fois que Lotus vous exige d'avoir vous exige d'avoir une salle de montre qui est destinée uniquement à leurs produits, là.
Ben c'est certain qu'il n'y avait pas vraiment d'argument là pour nous faire dépenser beaucoup d'argent là,
ouais.
Pour s'ajuster à eux autres là. Maintenant là, avec qu'est-ce qui s'en vient, tu sais, si j'ai 60 dépôts, est-ce que je vais vendre 60 et une IRA par année?
Est-ce que vous allez être capable d'en avoir 60? Bon.
Ouais, et la capacité de production semble être là, mais c'est sûr que ça se remplira pas dans 4 mois. Là.
Ouais.
Je pense pas qu'ils m'en donnent 25 par mois là, à partir de juillet. On va savoir nos allocations, comment ça va être distribué au mois de janvier, ce qu'on nous a dit. Nous autres, en tant que concessionnaires au Canada, on est les mieux situés parce qu'on nous a dit que ceux qui feraient la job, le meilleur job en 2021 avec l'Evora GT, bon, auraient plus d'allocations. Fait qu'ils nous ont demandé d'être agressifs. Moi, j'ai commandé 10 Evora GT pour 2021.
Okay.
Qui était une grosse commande, là, comme on dit, là, parce que les années d'avant, c'était 2-3 par année. Là. Fait que je me suis dit, bon, ben garde, on va pousser fort, il m'en reste une.
Puis c'est le champ du cygne, il n'y en a plus après. Là.
Ça, c'est fini.
Okay.
Evora, c'est vraiment fini. Fait que la nouvelle Lotus va commencer la nouvelle ère, ni plus ni moins, là. Pour nous autres ici, ça va être au mois de juillet. Est-ce que je vais être en mesure d'en avoir une sur le plancher à quelque part là, parmi ces 60-là? Là, on va essayer d'en garder une comme démonstrateur là,
ouais.
pour être capable de la faire essayer puis d'en vendre d'autres. Là,
bien sûr.
Mais c'est sûr que Lotus, l'avenir.
Il est plus prometteur.
C'est pas mal plus prometteur que ça l'était il y a 3 ans. Là.
OK.
Vous avez fait référence à un moteur V6 en position centrale arrière. Est-ce qu'on tire ce moteur-là de chez Toyota comme on l'a fait par le passé?
Oui, en fait, c'est toujours le 3.5 litres Toyota là, qu'on retrouve dans les Camry, RAV4, Lexus et compagnie. Moteur qui développe avec le compresseur, là, c'est des moteurs suralimentés qui développent 400 chevaux. Là, c'est ouais. pas le 280 chevaux dans une Camry. Là. On parle de quelque chose qui est pas mal plus excitant en termes de son aussi. Là,
qui est un petit peu plus léger qu'une Camry aussi.
C'est un peu plus léger, oui. Avec les 400 chevaux, on a des bonnes performances là, dans les bas 4 secondes. Là, qui est quand même très respectable là, pour le prix de la voiture aussi, hein, parce qu'on parle on parle pas d'une voiture de 300 000 $ là, on parle d'une voiture qui, à la base, va être 96 800 $
okay.
avec le 4 cylindres AMG
okay.
Qui lui développe 380 chevaux, de 360 plutôt.
OK. OK. Fait qu'il y a une petite différence entre le 4 cylindres et le 6 cylindres, mais évidemment que, bon, d'avoir un V6, c'est encore agréable de pouvoir profiter de ce genre de cylindre.
Avec une boîte manuelle en plus, ouais. Là, c'est exceptionnel. C'est très, très. Ouais. C'est très prometteur.
Oui.
Ouais, ben, le V6 avec la boîte manuelle, c'est le moteur optionnel, mais qui va être dans l'édition de lancement, là, la First Edition qui appelle.
OK.
Il va être équipé du moteur V6 qu'on peut avoir automatique, conventionnel, programmé un petit peu plus agressif là, comme,
ouais.
Comme paddle shift là, au volant. Maintenant, le 4 cylindres AMG, lui, va avoir une boîte, une transmission...
double embrayage.
Double embrayage. Là, fait que ça va aller chercher une clientèle un peu plus jeune là, aussi. Fait que non, c'est on met ce moteur-là, ça sera pas disponible avant le début 2023 ou fin 2022. Là.
OK. Puis justement, c'est ça qui est intéressant. Lotus, moi, j'ai pas l'impression... Tu sais, on le sait dans le marché, il y a des gens qui vont acheter, notamment chez vous, des Lamborghini pour l'image de la marque. Il y a des gens qui vont s'acheter des véhicules de luxe parce qu'ils collent à l'image de la marque, parce qu'ils veulent avoir ça. sans nécessairement être des emballés de l'entreprise ou du logo, ou c'est-à-dire ou de la conduite comme telle. On peut s'acheter une Lamborghini parce que ça flash, pas nécessairement parce que on est vraiment passionné de la conduite de ce véhicule-là. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça du côté de chez Lotus. J'ai vraiment l'impression que c'est une voiture de puriste et on ne s'achète pas une Lotus pour pavaner, on s'achète une Lotus pour conduire. Qui est la clientèle de Lotus véritablement?
Ben, la clientèle Lotus, si je me rapporte là, dans le temps où la Elise est devenue disponible, moi j'en ai livré 80 cette année-là, là, en 2006.
OK.
Mais c'était vraiment un produit niche qui était attendu parce que ça faisait près de 10 ans qu'elle était disponible en Europe.
Ouais.
Elle n'était pas en Amérique du Nord. Fait qu'il y avait un paquet de gens là, qui espéraient qu'un jour elle se monte le nez. Là, et puis quand c'est arrivé, ben, ça a été un succès aussi. Je les ai eues toutes dans le même été, ces voitures-là, parce que on était un nouveau marché. Fait que Lotus avait la capacité de les produire. Maintenant, avec 2000 et plus commandes sur la table, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas les produire toutes dans la même semaine puis nous expédier ça toutes dans le même mois. Là.
Non.
Il va y avoir. Pour ce qui est de la clientèle, dans le moment, je m'aperçois qu'il y a une plus grande variété de clients. Là. Il y a peut-être un peu moins de puristes. Il y en a que ils ont peut-être embarqué dans Lotus avec la Evija parce qu'ils ont quand même fait beaucoup de bruit avec, là.
Ouais.
Le marketing, depuis les deux dernières années, on n'a jamais entendu parler de Lotus autant que ça dans les deux dernières années, là, par rapport à avant, là. C'est sûr que la clientèle, quand on regarde dans ce segment prix-là, dans la voiture sport, parce que on parle d'une voiture qui va être au maximum à peu près 125 000 $ tout équipé. Là.
On est dans les mêmes eaux qu'une Corvette de 8e génération, grosso modo. Là.
Exact.
Mais la clientèle est différente. C'est pas le même but recherché avec la voiture non plus, là.
Ben c'est plus subtil. C'est sûr qu'il y a des amateurs de gros cylindrés, V8, le gros bruit, puis comme on parlait tout à l'heure au niveau du pilote, c'est sûr que la philosophie de Lotus, qui a toujours été la performance à travers la légèreté, c'est un véhicule qui respecte l'idée première de Lotus. Là.
Ben voilà. Ouais. C'est celle d'être légère, celle d'être agile. Voilà. Light is right, là, comme disait.
Oui, c'est ça, pour pas le dire. La fameuse citation de M. Chapman.
Ben oui, c'était performance through lightness. You know?
Oui, c'est ça.
C'était ça. Et puis, il a fait la barbe à beaucoup de manufacturiers dans le temps quand il s'est pointé en course automobile là, avec ses petites voitures. Là. Les gros cylindrés qu'on comprenait plus ce qui leur arrivait. Là.
En introduction, Antoine mentionnait que Lotus n'avait pas commis l'irréparable en produisant un VUS. On sait que d'autres manufacturiers de luxe, manufacturiers de voitures de sport, et là on peut tous les nommer, ont un VUS, sauf Ferrari, à peu près.
Et ça s'en vient.
Et ça s'en vient. Est-ce que chez Lotus, on va emprunter ce virage-là? Parce que, bon, on sait, tu sais, puis on prend un exemple rapide chez Bentley. Bon, le Bentayga, c'est la moitié des ventes. Chez Lamborghini, vous êtes mieux placé que nous pour savoir que c'est un véhicule qui se vend extrêmement bien, le Urus. Est-ce que ça fait partie des plans? Et est-ce qu'il y aurait un marché intéressant pour Lotus d'arriver avec un VUS?
Oui, ben, c'est déjà dans les plans. Là, c'est probablement le prochain modèle qui va arriver ici. Là, ça va être un VUS. C'est sûr qu'avec la capacité de Geely, qui sont aussi propriétaires de Volvo, il y a un paquet de possibilités là, de plateformes, tout ça, là,
On peut pas nous arriver non plus avec un XC40, là, tu sais, c'est ça, là, je comprends. c'est délicat, non, là.
On a parlé, là, d'ailleurs, j'ai reçu un petit teaser aujourd'hui, là, bon, ça dit pas ce qui s'en vient, là. Tout ce qu'on voit, c'est une espèce de scoop sortir de, on sait pas trop où, là, puis ça coupe, là.
OK.
Un scoop amovible, là, en tout cas. Si c'est pour le SUV, je ne connais pas des SUV qui ont des scoops amovibles. Fait que ça doit être quelque chose qui va aller chercher de l'émotion à quelque part. Là. L'émotion, va falloir qu'elle soit présente là, si Lotus sort un SUV. Il va falloir qu'il se démarque.
Qui sera électrique.
On s'entend que ça va être électrique parce que Emira, c'est la dernière voiture. Avec le moteur à combustion. Là, ouais. Fait que c'est sûr que toutes les autres, ça va être électrique.
J'ai envie qu'on parle de la valeur actuelle des anciennes, entre guillemets, Élise et Exige sur le marché d'occasion. Parce que, bon, dans une conversation précédente qu'on a eue, vous me mentionniez que la valeur a carrément explosé là, pour ces petites sportives-là. Là.
Oui, absolument. Et écoutez, des voitures qu'on vendait 60 000 $ des Élise dans le temps, là, une soixantaine de mille, ont jamais vraiment baissé sous la barre des 40 000
là. OK.
Puis ça n'a pas resté longtemps à 40 000, ça a remonté à 45. C'est rendu un Élise de base là, avec j'ai eu connaissance là, deux semaines. Un client qui a vendu la sienne avec 80 000 km, il a vendu ça 51 000 à un grossiste qui lui servirait de bar puis qui a sûrement fait une coupe de mille avec son client. Là. Fait que c'est un véhicule avant taxe, il a dû se vendre à peu près 53 000 $ là.
Quand même.
On parle de ça. Là.
Puis on parle pas des exiges, ça, les prix, ça a aucun. C'est complètement indécent.
Exige, la dernière que j'ai rachetée, moi, qui était l'automne passé, en échange sur une Evora GT, j'ai redonné l'argent que mon client m'avait payé en 2007. J'avais payé 85 000 avec la taxe. C'est ce que je lui ai donné pour l'avoir.
Wow.
Et puis, je l'ai revendu avec un profit. Puis, aujourd'hui, cette voiture-là, elle vaut 10 000 de plus. Facile. Parce que c'était une 220, 2007, avec 220 chevaux. J'ai eu connaissance qu'une une 2008 avec le 240 chevaux qui était vendue près de 110 000 $
Est-ce que ce sont des voitures faciles à entretenir? Est-ce que c'est fiable, une Lotus comme ça?
Oui, c'est très fiable. D'abord, Élise Exige, ça ne nous a jamais causé de pépins parce que le véhicule est simple. Hein?
Oui, puis, ben oui.
Il avait aussi une motorisation Toyota. Fait que c'est des petits moteurs qui sont à l'épreuve des balles, comme on dit. Là.
Ouais.
Fait que on fait un entretien, puis on change les plaquettes de frein, les pneus, le reste, ça suit. Là, la même chose avec l'Evora, il y a eu quelques problèmes au niveau des tableaux de bord là, avec les couverts de ballons gonflables qui, au soleil, nous donnaient des problèmes, et ça a été remédié, puis ça ne se reproduira plus sur les nouveaux modèles.
Mais donc, c'est on n'a pas de problème électrique comme on avait sur des plus vieilles Lotus. Là, je donne l'exemple d'un ami qui a une vieille Lotus Esprit et c'est une voiture qui est magnifique, qui va extrêmement bien, mais c'est un cauchemar. Là. Il faut être dévoué à cette voiture-là. Là.
Oui, ben c'est sûr comme toute vieille voiture anglaise qu'on a souvent eu affaire avec des systèmes électriques électroniques qui venaient chez Lucas. Et puis Lucas, il l'appelait en anglais le Prince of Darkness.
OK.
ça veut tout dire. Là.
Oh, ouais. Non, c'est ça. C'était pas.
Les composantes sont beaucoup plus voilà,
plus résistantes, du moins.
Ben c'est ça. Là. Et puis c'est des modèles qui existent depuis longtemps aussi. Fait que s'il y a eu quelques ajustements à faire en cours de route, ils ont été faits.
Oui, ouais, c'est ça. Ben Bernard, on a tous bien hâte de la voir en vrai, cette voiture-là.
Et de la conduire aussi.
Et de la conduire aussi.
Ben oui.
Alors, est-ce que vous serez au Salon d'Auto de Montréal cette année?
Oui, ben oui, absolument. Là, on peut pas manquer cette opportunité-là. Malheureusement, je n'aurai pas d'Émira sur place.
Non.
Je vais sûrement être obligé pour maintenir le visuel Lotus là, d'amener un Evora GT.
La seule qui reste ou de l'emprunter à un client? Parce
ouais,
que si elle, vend, si elle est vendue d'ici ce temps-là.
Si je la vends d'ici ce temps-là, j'ai quelques bonnes relations avec des clients. Là, et puis, c'est sûr que. J'ai des plans B. Là,
ouais.
Me pointer là avec une voiture, ça, c'est certain.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Bernard, et puis au plaisir.
Merci, parfait. On se verra au salon.
Bienvenue.
OK, excellent. Bye-bye.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, terminons avec quelques questions du public. On a André qui nous mentionne que dans le cadre de son travail, il doit parcourir plusieurs centaines de kilomètres par semaine dans des chemins forestiers et des petits sentiers. Quel serait le véhicule le mieux adapté à ses besoins? Il précise pas s'il veut un VUS ou une camionnette, mais j'ose imaginer qu'une camionnette, ça pourrait être un bon choix pour lui.
Bien, des chemins forestiers, des petits sentiers, ça prend un véhicule qui n'est pas trop gros, qui n'est pas trop encombrant.
Une camionnette intermédiaire, là, pas une camionnette pleine
grandeur. Non, c'est ça. Fait qu'évidemment que, bon, si on veut avoir quelque chose de robuste, de durable, je peux penser à un Tacoma, je peux penser à un 4Runner, je peux penser au nouveau Nissan Frontier. J'irais pas nécessairement jouer dans un produit comme le Wrangler de Jeep. Tu sais, je pense que d'avoir un véhicule... Et c'est solide, un Wrangler, mais il y a beaucoup de compromis à faire. Alors que, tu sais, un Tacoma, un 4Runner, le nouveau Nissan Frontier, moi, c'est un produit qui me convainc énormément. Je pense que c'est le genre de machine qui serait tout indiqué pour ça. Maintenant, comme tu dis, j'ai aucune idée. Est-ce qu'on a un budget? Est-ce que c'est seulement de l'usager? Est-ce que qu'est-ce qu'on cherche? C'est la question a des trous dedans, là.
On a Sylvain qui nous dit avoir vu une publicité de nouvelle marque qui porte le nom Polestar. De quoi s'agit-il?
Ah ben Polestar, c'est une division électrique qui veut proposer une image différente de celle de Volvo. Mais c'est la même entreprise que
Volvo.
C'est la
même famille.
Et la Polestar 2, que vous avez probablement vu, parce que pour l'heure, c'est le seul produit de masse qu'on propose. Sinon, il y a une Polestar 1.
Mais encore, on n'en voit pas des tonnes non plus sur la route. Là.
On n'en voit pas des tonnes parce que, évidemment, le réseau est embryonnaire. Mais on utilise les bases avec cette voiture-là du Volvo XC40 Recharge. Donc, c'est la même plateforme dont l'offre sera multipliée chez Volvo et chez Polestar dans les prochaines années. On va arriver avec un VUS intermédiaire chez Polestar d'ici un an. Mais c'est un constructeur qui, justement... propose une alternative pour le moment à une Tesla Model 3 qui est très, très, très intéressante. Une voiture qui propose un comportement routier exceptionnel dont la qualité de fabrication n'a rien à voir avec ce que propose Tesla.
Autonomie, on ne joue pas la guerre de l'autonomie, justement, comme
non,
Tesla.
L'autonomie,
non
c'est 400. Là. C'est pas compliqué. Là, 380, 400. On annonce 335. On a majoré l'annonce de l'autonomie à 360 autour d'eux. Là. Mais la vérité, c'est que vous allez faire 380 très facilement autour de 300 durant l'hiver. 4 roues motrices, 402 chevaux. Il y a
une version, c'est ça, 2 roues motrices qui s'ajoute là, pour avoir un prix d'entrée un petit peu plus bas.
Alors voilà ce qu'est Polestar. Donc c'est une entreprise et toutes ces voitures-là sont fabriquées du côté de la Chine maintenant. Mais vous aurez pas d'équivalent pour le moment parce que je trouve que c'est une marque qui a une identité qui lui est très propre. Mais on a un peu de difficulté à se distinguer de Volvo et j'ai hâte de voir comment on va travailler l'image de marque au fil des années pour justement se distancer de Volvo parce que là, il y a une proximité.
Et Volvo va devoir éventuellement avoir un catalogue complet de véhicules électriques.
Ben
donc,
oui.
Finalement, est-ce que les deux marques vont demeurer pertinentes dans un horizon à long terme? La question se pose. Là.
Hey, Hey, c'est intéressant. Puis d'ailleurs, je me permets de glisser qu'on revient chez Volvo cette année avec une V90 oui. Cross Country.
C'est passé sous le radar, mais c'est pourtant ça.
Moteur T6, mais avec un surcompresseur qui est complètement modifié cette année et qui est électrique. Et ça permet d'avoir un gain de puissance, un gain d'autonomie ou de consommation d'essence. Fait qu'une voiture qui, moi, me convainc pas mal.
Dernière question, on a Caroline qui nous dit qu'elle possède un Nissan Kicks 2019 et elle aimerait le changer pour pouvoir tirer une petite roulotte de 1000 à 1500 livres. Est-ce que le Qashqai ou le Rogue ferait le travail? Elle a un budget de 30 à 35 000 $.
Bien, en 2021-2022, le Qashqai, c'est un produit qui a rapidement vieilli, là, si vous voulez mon avis. Sera prochainement redessiné. D'ailleurs, ça sera en 2023, la nouvelle génération. Alors, allez au Rogue. C'est une bonne valeur sur le marché. La fiabilité est là jusqu'à maintenant. C'est un produit qui est beaucoup plus abouti, qui est mieux ficelé et qui n'a surtout rien à voir avec l'ancienne génération du Rogue. Vous pouvez obtenir un S avec rouage intégral pour un prix justement autour de ça, 30 000 $ plus taxes. Alors, je pense que ça vaut la peine d'aller là et de ne pas aller au Qashqai qui est un produit qui va être moins convoité, ça c'est certain. On est en fin de carrière avec ce produit.
Merci beaucoup, Antoine. Bonne fin semaine. De semaine.
Merci.
Cube Radio.